Il ne tient qu'à l'homme de s'appartenir tout entier, c'est-à-dire de maintenir à l'état anarchique la bande chaque jour plus redoutable de ses désirs. La poésie le lui enseigne. Elle porte en elle la compensation parfaite des misères que nous endurons. Le temps vienne où elle décrète la fin de l'argent et rompe seule le pain du ciel pour la terre. Il y aura encore des assemblées sur les places publiques et des mouvements auxquels vous n'avez pas espéré prendre part. Adieu les sélections absurdes, les rêves de gouffre, les rivalités, les longues patiences, la fuite des saisons, l'ordre artificiel des idées, la rampe du danger, le temps pour tout. Qu'on se donne seulement la peine de pratiquer la poésie. Alors la poésie, telle que l'envisage André Breton et la plupart des surréalistes, s'institue sous une double impulsion. Changer la vie, a dit Rimbaud, transformer le monde, a dit Marx. Pour nous, ces mots d'ordre n'en font qu'un. Pierre Leroux, penseur de l'utopie du XIXe siècle, écrivait « Puisque tout est doute aujourd'hui dans l'âme de l'homme, les poètes qui expriment ce doute sont les vrais représentants de leur époque. » Alors voilà, la question que je me suis posée, quel était donc ce doute ressenti par les poètes surréalistes pour lier poésie et utopie, notamment dans cette démence des villes, pour reprendre un terme de Pierre Leroux encore. Alors, la citation ci-dessus de Breton peut nous éclairer à plusieurs titres. Alors, question de désir, fin des misères, temps pour tout et surtout assemblée sur les places publiques. Alors je vais proposer un développement en trois temps. Très rapidement, quelle critique et quel aspect de la ville les surréalistes entendent critiquer. Ensuite, j'ai précisé le lien entre poésie, utopie et ville. Et puis, dans un dernier temps de réflexion, comment les surréalistes entendent déployer la poésie et l'utopie dans la ville moderne pour faire voir ces possibilités d'horizons nouveaux. Tout d'abord, l'aliénation des villes. Voilà, quel est un certain aspect des villes que les surréalistes critiquent. Alors, cette rencontre entre la poésie et l'utopie part d'un désir, celui d'une désaliénation du travail et des rapports sociaux. D'où cette envie que Breton explicite d'adieu aux sélections absurdes, à l'ordre artificiel des idées et surtout l'appel à avoir du temps. Temps qui permet de pratiquer la poésie. Alors pour les surréalistes, il y a quelque chose dans la ville moderne qui incarne un certain rapport au temps et à l'aliénation. C'est celui où se déploient les images du capital et des marchandises, la séparation en quartiers où se reproduit des formes de domination politique, le développement des moyens de contrôle et de surveillance, l'organisation rationnelle des axes de circulation, qui s'intensifie de nos jours, mais qui commence bien évidemment, comme Michel Foucault a pu le montrer dans son livre « Territoire, sécurité et population », quelque chose qui s'initie dès le XIIe, XIIIe siècle. Et puis au XIXe, on peut penser à Haussmann, qui crée aussi des grands boulevards, avec divers arguments, évidemment, mais dont un des aspects, évidemment, d'empêcher plus facilement l'émergence des barricades. Alors les surréalistes, bien sûr, viennent un peu plus tard, donc ils ne sont pas immédiatement concernés par ça, mais pour eux, il y a quand même une pratique de la ville qu'ils entendent critiquer. Et surtout un rapport au travail qui consiste à aller vendre sa force de travail dans des usines ou des grandes entreprises. Alors, monde de l'ennui, clameront déjà les dadaïstes et que les surréalistes reprendront. Monde du règne de l'économie sur le vivant, du travail aliéné où les hommes ont renoncé à vivre pour assurer la survie d'une économie censée garantir la survie de l'espèce. Alors, ce rapport-là, aliéné à la ville, annihilerait la part vivante des individus, leur fantaisie créative, leur capacité à s'émerveiller, à désirer, à aimer, puisque le rapport à la ville deviendrait majoritairement fonctionnel, utilitaire et marchand. Pour les surréalistes, mais déjà au XIXe, chez certains romantiques, la poésie ne peut donc qu'acter d'une forme de rupture avec ce type de rapport à l'existence, et plus particulièrement à la ville, où l'imagination est soumise, une citation d'André Breton, aux lois d'une utilité arbitraire, où le monde du rêve est menacé et appauvri. Alors la poésie, d'après Breton, est justement ce qui enseigne à maintenir à l'état anarchique la bande chaque jour plus redoutable de ses désirs. Bon, il faut bien comprendre que là, anarchie s'entend par remise en question de l'ordre institué et des positions d'autorité. Hein. Pas ça, c'est pas, on voit pas simplement un chaos sans forme. Alors le constat, bon, je le répète, s'impose de lui-même pour ces poètes. Le monde fonctionnel est un monde sans passion ni création. Dès lors, brandir les puissances des images, du merveilleux et de la surprise, permet de mettre en évidence cette insupportable platitude et fonctionnalisation de l'espace public. Ce sont bien ces gestes créateurs que les surréalistes entendent retrouver par la poésie et l'utopie. Parce que le lien entre une certaine idée de l'utopie et la poésie est bien ici. De même que le rapport avec la problématique marxienne de l'émancipation, que les surréalistes reprennent à leur compte. L'utopie, c'est précisément ce qui s'inscrit dans le temps comme le retour de l'idée d'émancipation et comme le contraire de la projection vers le futur d'un modèle préfabriqué. Elle est, citation d'André Breton, ce désir sans frein du mieux-être collectif. C'est qu'elle s'enracine dans une pensée du travail comme autocréation et dans l'idée de révolution des rapports sociaux. En effet, le thème de désaliénation du travail sous la forme d'une réduction du temps quotidien de travail est central dès l'œuvre de Thomas More. C'est l'idée que le travail et les rapports sociaux puissent avoir un sens différent de celui que lui prête notre société sous le signe de la création et de l'expression vivante, d'une fin des misères que nous endurons, d'une ouverture à l'altérité et non aux rivalités, une envie de bonheur, on pourrait dire. C'est ce qui aussi voilà, irrigue l'écrit de Thomas More. Si le texte de Thomas More prend place dans une ville, qui est en même temps nulle part, c'est que la ville est un des lieux de surgissement de l'utopie. Voilà, maintenant, je vais parler plus précisément de l'utopie, de la poésie qui peuvent se déployer dans la ville. Alors, deux choses dans cette impulsion utopique vers un tout autre. D'abord, un foyer humain que l'on retrouve dans l'œuvre d'Emmanuel Lévinas. C'est l'utopie de l'humain telle qu'il se manifeste dans la rencontre ou dans l'ordre, dans les relations entre humains. Lévinas arrache l'utopie à l'ordre de la connaissance et du savoir pour l'assigner à l'ordre de la socialité, mieux de la proximité du fait du prochain. Elle est interruption, arrêt du mouvement qui consiste pour tout être à persévérer dans son être et qui conduit à un décentrement de soi vers l'autre. André Breton, justement, expérimente un rapport au lieu dans les villes, en particulier à Paris, mais on peut songer à Nantes aussi, une ville sur laquelle il a écrit, qui s'appuie sur la rencontre, la déambulation, la recherche de l'insolite et de l'inattendu. Dans ses œuvres comme Nadia, un autre Poisson soluble, L'amour fou aussi, il y a vraiment cette philosophie qui se déploie. Il y a l'idée de se libérer des contraintes de la ville marchande, de l'histoire, de la nécessité de l'histoire, ainsi que de sa propre histoire. Hein, c'est s'altérer soi-même aussi. Tenter de retrouver ce souffle de liberté et d'altérité propre à l'utopie. André Breton privilégie alors les lieux où se fait voir le mouvement, plus favorable à l'éclosion du hasard. Les passages, les places, les rues, les terrasses de café, les jardins, les gares, les métros. Il s'agit dans la rue d'être attentif aux signes anarchiques qui parviennent à rendre compte d'un jeu dans l'ordonnancement de la société, de brèches qui peuvent s'ouvrir pour un tout autre rapport à l'existence. Ainsi que ce soit dans les récits d'errance dans Paris ou dans les produits d'une autre errance qui est l'écriture automatique ou l'écriture surréaliste, le lecteur d'André Breton rencontre non pas un sujet uni, plein, mais les états d'un sujet multiple qui se cherche, qui est fragmentaire, toujours à l'affût des signes et des traces de son avènement dans le tout venant de l'expérience, qu'elle soit textuelle ou événementielle. Or, la ville peut ainsi permettre de retrouver, citation d'André Breton, la puissance absolue de la subjectivité humaine, de prendre part à des mouvements de rencontre et d'altérité. Deuxième point, l'utopie, dans son mouvement vers un tout autre social et un autre rapport au temps et à l'autre, est signe d'un autre mouvement, une impulsion vers la liberté, la fin de la domination et des rapports d'exploitation. Pour reprendre les mots de Miguel Abensour, impulsion qui, en dépit des échecs et des défaites, renaît dans l'histoire, refait jour, qui au plus noir de la catastrophe se fait néanmoins entendre comme une nouvelle sommation utopique mettant le cap sur ce qui est différent et n'a pas encore commencé. Elle a pour vertu un signe de réveiller les humains, de les arracher à l'acceptation de l'ordre établi. Alors le ferment utopique n'est donc pas du côté d'une conception de l'utopie comme société pacifiée, réconciliée ou figée. Bon là, je renvoie aux travaux de Miguel Abinsour qui a montré que la haine de l'utopie, ou désigner l'utopie comme étant le ferment du totalitarisme, c'est un contresens, puisque le totalitarisme a toujours cherché à finalement mettre fin aux expériences d'altérité et d'utopie. Le propre de l'utopie, alors, là je reprends le terme de Miguel Abinsour, est alors considéré comme démocratie insurgente. Et elle s'inscrit dans la déconstruction de la domination établie. C'est-à-dire dans une césure entre deux formes étatiques, de nature à laisser jouer dans la brèche l'action libre du peuple. La démocratie insurgente lutte alors sur deux fronts, contre le régime étatique d'ancien régime et contre le nouvel État en train de se faire. C'est dans cet intervalle, cette brèche, que peut se déployer l'action libre et égalitaire du peuple. Les assemblées publiques, je reprends la citation d'Henri Breton, les assemblées publiques, les mouvements toujours renaissants, qui sont finalement, non pas, c'est pas un rapport nostalgique, comme il le dit, des mouvements auxquels vous n'avez pas espéré prendre part, sont autant de signes vers des actions dans les villes qui entendent redistribuer les rôles établis, témoignent du désir d'un autre rapport à la politique et un rapport à la ville placé sous le signe de l'ouverture des possibilités. Alors, en définitive, la poésie et l'utopie ont ceci en commun, le refus d'être esclave et la recherche d'un temps de liberté pour s'appartenir tout entier. La ville est bien un des lieux de l'utopie, en ce qu'elle recèle en elle des potentiels d'ouverture à l'autre et de révolution des rapports sociaux.
Merci beaucoup, monsieur.